Par Corse, avec d'autres histoires de la France sous ce silence, sous l'aspect un peu lisse de l'étang français. Il y a beaucoup de choses qui bougent, qui attendent des monstres et des merveilles. C'est jusqu'à 16h ou presque, c'est la basse édition.
Un auteur atypique, et ça explique un petit peu pourquoi j'ai fait des trucs si différents. Par exemple, éditer un poète anarchiste mort dans un commissariat de police, Armand Robin, de Rostrenin. Ensuite, me lancer dans l'édition d'un... Enfin, me poser des questions sur la manière dont le folklore était instrumentalisé par les folkloristes. Et donc, ça m'a amené à cette espèce de saga de l'affaire Luzel, puisque je suis tombée sur le fond de contes, de chansons et de théâtre populaire breton le plus important et qui était inédit, je ne comprenais pas pourquoi. Et donc, ayant le sens du dévouement, je me suis dit, je vais faire une édition des textes de ce François-Marie Luzel, qui vivait au XIXe siècle.
François-Marie Luzel, Fanchonnuel en breton, jusqu'à présent ce n'était pas un best-seller, mais ce n'est pas étonnant, les 300 et quelques contes qu'il a recueillis à travers la Basse-Bretagne vers 1870 n'avaient guère été publiés jusqu'à ces dernières années, ni en breton ni en français.
France 3 Atlantique, 26 février 1995.
C'est pourtant l'un des plus grands collecteurs de contes et de chants populaires en Europe au siècle dernier, et on a souvent comparé son travail à celui de Grimm en Allemagne. Mais Luzel ne réussit pas aujourd'hui plus qu'hier à faire l'unanimité. Le 100e anniversaire sera sans doute marqué par les divisions et les polémiques entre spécialistes. On parle même de procès.
Mais mon directeur de thèse, qui dirigeait le département de statistique de l'université de Rennes, et qui s'appelait Pierre Denis, mais il s'était rebaptisé Père Dénez, quand il m'a imposé de réécrire les carnets de Luzel en orthographe surunifiée, j'ai simplement pensé qu'il était sénile, donc je lui ai dit non, parce que un chercheur ne falsifie pas un texte. Et donc je me suis retrouvée qu'à un procès en diffamation pour avoir voulu finalement respecter l'orthographe de Luzel, totalement surréaliste. Et là, j'ai commencé à comprendre ce que c'était que le mouvement nationaliste breton. Soudain, les écailles me sont tombées des yeux. Et je commençais à me poser des questions sur, précisément, Robert Simon, quand on m'a demandé des dommages et intérêts, parce que j'avais expliqué que cette orthographe, c'était pour eux un problème central, étant donné qu'elle a été fixée en 1941 sur ordre des Allemands, qui étaient associés aux militants nationalistes bretons. Donc le fait d'expliquer historiquement pourquoi on se trouve devant les tribunaux à cause d'une affaire d'orthographe, il me demande des dommages et intérêts supplémentaires. Parce que j'avais expliqué que, étant l'héritier spirituel de Robert Simon, Monsieur Denis ne pouvait pas supporter que je respecte l'orthographe de Luzel. Parce que Robert Simon avait fixé l'orthographe surunifiée du breton, qui était le dogme absolu du mouvement nationaliste. Donc le résultat, c'est qu'il me fait ce procès, il le perd. Et entre-temps, moi, je me demande ce qu'a pu écrire Robert Simon, effectivement, puisque on considère que héritier spirituel de Robert Simon signifie idéologue nazi, je vais donc en savoir plus. Et là, je commence à lire L'Heure Bretonne, Arvor, le journal de Robert Simon, sous l'occupation, Stéren et d'autres revues. Et de fait, c'est un idéologue, pas nazi, mais pro-nazi, clairement. et qui écrit des textes antisémites. Et du coup, je me dis, mais les